VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Nigeria, 3 garçons ont été tués, 4 autres blessés dans un attentat suicide commis jeudi soir par une fillette d'une douzaine d'années dans une école islamique à Mounadalti, un faubourg de Maïdougouri, chef-lieu de la province de Borno, dans le nord-est du pays. Un attentat qui porte la marque du groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'ont indiqué ce vendredi des habitants et des miliciens. La fillette s'est approchée du groupe de garçons qui étaient sur le point d'achever leur session d'études et s'est fait exploser au milieu d'eux, a déclaré Mohamed Boula, chef de la milice anti-djihadiste locale, en précisant que l'attaque a eu lieu hier soir vers 19h temps universel. Selon Mohamed Boula, quelques instants auparavant, une autre fillette du même âge avait fait irruption dans une maison proche et fait sauter ses explosifs, blessant une personne. Toujours concernant le combat anti-djihadiste dans le Sahel, Washington a appelé jeudi les Européens à aider la France au Sahel au moment où le Pentagone cherche à réduire sa présence militaire en Afrique et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par la Russie et la Chine. Les Européens doivent relever le défi et en faire plus au Sahel pour aider la France, a déclaré le général Stephen Townsend, chef de l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, interrogé hier sur les projets du Pentagone par des élus du Congrès américain. Notant que les violences terroristes au Sahel ne cessaient de s'aggraver, le général Townsend, qui témoignait devant la commission des forces armées du Sénat américain, a prévenu qu'un ajustement des forces américaines dans la région devrait être synchronisé avec un renforcement du soutien européen sur place. Mali, les groupes djihadistes actifs dans le pays ne montrent pas de disposition très évidente à un dialogue, a estimé hier à Bamako le chef des opérations de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. L'ancien président malien, John Koundé Traoré, a dit il y a quelques jours qu'il avait envoyé des émissaires pour discuter avec deux leaders djihadistes. Les détails avec Bagassi Koura.
S'il y a des représentants des autorités maliennes qui sont tués, les écoles qui sont attaquées, fermées, la population harcelée, ce ne sont pas des symptômes de prédisposition au dialogue très évident, a déclaré hier Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies. La semaine dernière, le haut représentant pour le centre du Mali, l'ex-président John Koundé Traoré, a indiqué avoir envoyé des émissaires vers Amadou Koufa et Yad Ag Gali, deux leaders djihadistes maliens. Nous sommes prêts à lancer les passerelles pour dialoguer avec tout le monde, mais les dirigeants maliens ont jusqu'à présent rejeté officiellement ce dialogue. Il y a eu plusieurs déclarations émanant d'autorités maliennes et nous allons suivre avec intérêt ces différentes prises de position, a dit hier le chef des opérations onusiennes de maintien de la paix. Dimanche, une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre le camp de la gendarmerie de Sokolo a coûté la vie à 20 soldats maliens. Les djihadistes sont même revenus dans ce camp, planter leur drapeau et l'occuper toute une nuit avant de se replier.
Afrique centrale maintenant, au Cameroun, les élections législatives et municipales du 9 février ne résoudront aucun problème, selon Maurice Kamto, chef de file de l'opposition. Son parti boycotte le scrutin en dénonçant ce que l'opposition appelle le désastre né de la sanglante crise dans les régions anglophones du pays. Le point avec Eki Abadou.
Nous n'avons pas décidé de boycotter par posture, c'est un engagement pour changer les choses, transformer la société, a souligné le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et rival malheureux du président Paul Biya à la présidentielle en 2018. Après les États-Unis, Maurice Kamto est passé en France dans le cadre d'une tournée pour alerter la communauté internationale sur la gravité de la situation dans son pays. Véritable guerre civile, le conflit meurtrier qui oppose indépendantistes anglophones à l'armée est un vrai désastre, a-t-il déclaré. L'élection du 9 février ne résoudra aucun problème, au contraire, ça va exacerber la crise, a ajouté M. Kamto. Le statut spécial pour les régions anglophones annoncé en décembre à l'issue d'un grand dialogue national arrive trop tard, a-t-il par ailleurs dénoncé. Nous ne croyons pas que la décentralisation soit une réponse aujourd'hui. En 3 ans, les affrontements ont fait au moins 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. L'extrême nord du Cameroun est par ailleurs régulièrement la cible d'attaques du groupe djihadiste Boko Haram.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, nouveau massacre dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Une vingtaine de personnes ont été tuées hier dans une attaque attribuée aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées. Plus de précision avec Eddy Sango.
24 corps ont été retrouvés en 4 endroits près d'Oicha, selon l'administrateur du territoire de Beni, Dona Kibwana. 19 morts ont été comptés dans la même zone par les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu. Dans la cité des Matumbi, 11 corps ont été retrouvés et 6 autres à Mamouvé. Dans deux villages voisins, 4 personnes ont été égorgées, a précisé M. Kibwana. En 2 jours, ces attaques attribuées aux membres du groupe armé d'origine ougandaise ADF ont fait au total 60 morts. L'armée congolaise qui a engagé des opérations contre les rebelles ADF depuis le 30 octobre a affirmé les avoir chassés de leur fief.
Alerte au coronavirus, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété jeudi que l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine et qui s'est étendue à plusieurs régions du monde constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale. Les détails avec Jacques Aristide.
Pour le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles. Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine, dit-il. Si l'essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, 18 autres pays sont touchés, avec plus de 80 cas confirmés au total. Bien que ces chiffres en dehors de la Chine soient relativement faibles, ajoute le patron de l'OMS, la planète doit agir ensemble pour limiter la propagation. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux États-Unis et en France. L'agence onusienne indique néanmoins qu'il n'y a pas lieu de limiter les voyages, les échanges commerciaux avec la Chine, voire les mouvements de population. De telles restrictions, d'après l'OMS, peuvent être inefficaces, perturber la distribution de l'aide et avoir des effets négatifs sur l'économie des pays touchés. Après les États-Unis et le Japon, d'autres pays planifient d'évacuer leurs ressortissants, tandis que la Russie a indiqué qu'elle fermerait sa frontière avec la Chine aujourd'hui.
Actualité américaine, le président Donald Trump a promis jeudi la victoire à une foule conquise dans l'État d'Iowa, où ses adversaires démocrates s'affrontent pour déterminer leur candidat à la présidentielle de novembre. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Depuis Des Moines, capitale de cet État agricole qui joue un rôle crucial dans la primaire démocrate, le président américain a dénoncé la folie de la gauche radicale et ironisé sur ses adversaires potentiels. Mettant en avant la vigueur de l'économie américaine, Donald Trump a martelé avoir accompli bien plus que n'importe quel président à ce stade. Un à un, Donald Trump a moqué ses adversaires potentiels. Les primaires démocrates débutent lundi avec le caucus de l'Iowa. Son avis sur le procès historique en destitution mené au Congrès américain, il veut l'annuler. Vos votes, a-t-il lancé sous les applaudissements. M. Trump est mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave à l'enquête du Congrès. Les 53 sénateurs républicains ont jusqu'ici fait bloc derrière le président, mais les révélations de John Bolton sur une confidence du président ont ébranlé les certitudes. Un vote sur la question de poursuivre le procès avec davantage de témoins, dont John Bolton, est prévu aujourd'hui, après la fin hier soir des questions et réponses des sénateurs.
Et pour terminer, en Europe, le compte à rebours a commencé avant le Brexit, la séparation historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce grand saut britannique sera marqué officiellement aujourd'hui à 23h, heure locale et temps universitaire, après 3 ans et demi de crise. Éric Manirakiza.
C'est un moment extraordinaire pour notre pays, un moment d'espoir et d'opportunité, a déclaré Boris Johnson sur Twitter. Le Premier ministre conservateur remplit sa promesse répétée sans cesse depuis son arrivée au pouvoir en juillet de mettre en œuvre la décision de 52% des Britanniques lors du référendum de juin 2016 en faveur du divorce. Peu de choses vont changer aujourd'hui puisque les règles communautaires continueront de s'appliquer sur le sol britannique jusqu'à la fin de l'année. Londres assure pouvoir conclure un accord de libre-échange avec Bruxelles pendant cette période de transition. La Commission européenne a déjà prévenu que ce délai serait trop court pour se mettre d'accord sur tous les sujets. En attendant, les eurodéputés britanniques ont fait mercredi leurs adieux à Strasbourg après la ratification du Brexit par le Parlement européen qui a entonné l'hymne « Ce n'est qu'un au revoir ».
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.